écoutez IDFM, il est 18h.
Vous avez choisi IDFM Radio pour passer cette fin d'après-midi et vous avez bien raison, puisque tout de suite, on va prendre de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace grâce à cette émission Entre Chiens et Loups, rubrique À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique que vous retrouvez tous les 3e mardis de chaque mois de 18h à 19h sur IDFM Radio. Bienvenue dans cette émission À toi les étoiles, une émission qui a une marraine et qui est Daniel Briot, astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi qu'un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Et ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 214e émission d'À toi les étoiles. En ce mois de mai 2023, nous allons aujourd'hui rendre hommage à un spationaute français décédé récemment. Il s'agit de Jean-Jacques Favier, décédé le 19 mars 2023 à l'âge de 73 ans. C'est le 6e français à être allé dans l'espace et c'est aussi le premier d'entre eux à disparaître. Pour lui rendre hommage, je reçois aujourd'hui Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain d'À toi les étoiles. Jean-François Pellerin, bonjour.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous pour cette émission hommage à Jean-Jacques Favier, une émission qui va se partager en plusieurs parties. Dans un premier temps, nous allons évoquer quelques minutes, vous et moi, Jean-Jacques Favier, et puis ensuite, nous écouterons des extraits d'une émission À toi les étoiles, puisqu'il faut savoir que Jean-Jacques Favier m'avait fait l'honneur de participer à une émission À toi les étoiles. C'était le 16 avril 2008, il y a de cela 15 ans, puisque À toi les étoiles existe depuis plus de 18 ans. Il était venu parler du laboratoire Columbus et du véhicule ATV. Des termes qui paraissent peut-être un peu barbares pour ceux qui ne connaissent pas, mais Jean-Jacques Favier explique dans l'émission de quoi il s'agit. Nous écouterons des morceaux choisis de cette émission, puisque comme elle date d'il y a 15 ans, il y a des termes qui sont obsolètes et qui sont plus d'actualité, donc j'ai fait un montage. Du coup, il nous restera quelques minutes en cette fin d'émission, et nous profiterons de ces quelques minutes pour évoquer avec vous, Jean-François Pellerin, l'actualité spatiale, puisque vous aimez beaucoup parler de l'actualité spatiale, et Dieu sait qu'elle est chargée en cette année 2023. Jean-François Pellerin, nous allons tout d'abord parler de Jean-Jacques Favier, qui était le 6e Français à être allé dans l'espace, hein, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Et c'était surtout le premier astronaute totalement scientifique, bardé de diplômes, hein, ingénieur et deux fois docteur, hein, deux doctorats.
En effet, Jean-François Pellerin, et d'ailleurs la formation de Jean-Jacques Favier fait envie, hein, puisqu'il a étudié en classe préparatoire aux grandes écoles du lycée Kléber de Strasbourg. Il a ensuite intégré l'École nationale supérieure d'électrochimie et d'électrométallurgie de Grenoble en 1971. Et comme vous l'avez dit, il a obtenu deux doctorats, un premier en ingénierie de l'École des mines de Paris et un second en physique et métallurgie de l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en 1977. Et c'est le 20 juin 1996 qui réalise un unique vol dans l'espace lors de la mission STS-78 à bord de la navette spatiale Columbia en tant que spécialiste de charge utile. Et son vol durera 16 jours et 21 heures. Et vous, Jean-François Pellerin, en tant que journaliste scientifique, vous avez souvenir de ce vol de Jean-Jacques Favier dans l'espace ?
Oui, j'ai eu la chance avec Jean-Jacques Favier de faire un peu de radio en 1996 avec le CNES à Paris. On avait une liaison satellite et radio et on a pu dialoguer. Et j'ai dialogué 2 minutes avec Jean-Jacques Favier depuis le sol. Et c'était assez impressionnant parce que on entendait le son qui redescendait de la navette Columbia. C'était impressionnant. On sentait que c'était pas la porte à côté. Et c'était un grand moment d'émotion que j'ai pu avoir avec Jean-Jacques Favier.
Et vous avez eu une sacrée chance, Jean-François Pellerin, de pouvoir faire une interview en direct depuis l'espace. Je peux vous dire que je vous envie. On va pas s'éterniser sur la carrière de Jean-Jacques Favier puisque nous entendrons un résumé de sa carrière dans un instant en écoutant un extrait de l'émission À toi les étoiles. Cependant, je préciserai qu'en 2009, il cofonde avec le responsable des systèmes d'information spatiaux du CNES, Jean-Pierre Antikidis, rejoint par Michel Courtois, le concepteur de Spot, et Bernard Planeau, le créateur de Matra System Information, la start-up Blue Planet. Et il va démocratiser l'orbite basse en permettant l'observation civile de la planète de façon industrielle et systématique grâce à une constellation de satellites originaux à très large champ dont les fondamentaux résultent de travaux ayant associé sous l'impulsion de Jean-Jacques Favier le CNES et d'autres organismes. Jean-François Pellerin, restez avec nous puisque maintenant je vous propose d'écouter des extraits de l'émission À toi les étoiles du 16 avril 2008 où Jean-Jacques Favier m'avait fait l'honneur de participer à cette émission en tant que directeur adjoint des techniques spatiales. Il nous a parlé du laboratoire Columbus et du véhicule ATV, mais auparavant je lui ai demandé de nous faire un résumé de sa carrière. Nous écoutons tout de suite.
Qui fait un peu l'originalité effectivement de mon parcours, c'est que je suis ingénieur et puis scientifique. J'ai fait une partie importante de ma carrière dans la recherche au commissariat à l'énergie atomique. J'étais physicien et puis je me suis toujours intéressé au spatial. On en parlera peut-être tout à l'heure à travers quelques anecdotes. Mmh. Il se trouve que dans le cadre de mon travail de recherche, j'ai été amené à préparer des expériences spatiales, donc à côtoyer des ingénieurs de la NASA. Et donc quand le CNES en 1985 a ouvert une sélection de spationautes ou d'astronautes ou de cosmonautes, il s'agit exactement des mêmes personnes, eh bien j'ai postulé et j'ai eu la chance d'être sélectionné. C'était en 85, mais en fait c'est un long parcours, souvent entre la première sélection et le vol, il faut compter en général une dizaine d'années. Donc dans mon cas, sélectionné en 85, j'ai volé en 96 à bord de la navette Columbia et donc avec les Américains. Et puis après, à mon retour, donc je suis revenu, rentré en France et j'ai été appelé au Centre National d'Études Spatiales, le CNES, pour m'occuper de technologie spatiale et maintenant de prospective et de stratégie.
Alors on va s'intéresser donc au laboratoire européen Columbus. Donc est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de ce laboratoire ?
Oui, si vous le voulez, le laboratoire Columbus, c'est en fait un énorme bidon, on va dire, vu de l'extérieur, qui à l'intérieur renferme un grand nombre d'expériences qui se trouvent donc dans des armoires, on appelle ça des racks. Alors, ce qui est assez original par rapport à un laboratoire terrestre, c'est que, bon, dans un laboratoire terrestre, bien sûr, les expériences se trouvent qu'à la verticale, sur les murs. Là, dans Columbus, eh bien, comme il n'y a plus de gravité, on sent plus l'effet de la gravité dans l'espace, on est en état d'apesanteur, donc on peut flotter, il n'y a plus de haut et de bas, et donc des expériences, il y en a à la fois sur les murs, au plafond et sous le plancher. Les dimensions, c'est en gros celle d'un gros autobus, ça fait 8 mètres de long, 5 mètres de diamètre, et c'est un module qui est attaché à l'ensemble de l'infrastructure de la Station Spatiale Internationale.
Oui, en effet, puisque il faut dire à nos auditeurs que le lancement était initialement prévu pour fin 2004, mais qu'il a été reporté en principalement en raison de la destruction de Columbia et de l'arrêt des lancements qu'elle avait entraîné justement.
Oui, bon, c'est vrai que le programme a pris beaucoup de retard. Mais en particulier, comme vous le dites, à cause de l'accident de Columbia à bord de laquelle j'ai volé. Donc, si vous voulez, pour moi, ça a été un événement dramatique, d'autant que je connaissais très bien l'équipage. Et donc, pendant 3 ans, les navettes ont été clouées au sol et n'ont repris leur vol au compte-gouttes qu'en 2006. Donc, on a pris du retard, mais... En fait, la bonne nouvelle, c'est que la contribution européenne à cette station spatiale internationale, donc avant laquelle vous avez bien sûr les Américains très présents avec un segment assez important, les Russes aussi présents que les Américains, mais aussi donc les Canadiens, les Japonais, les Européens. Mais la partie européenne, l'appartement européen est arrivé à bon port et va pouvoir maintenant être activé, c'est-à-dire servir de réel laboratoire. Donc elle est partie pour la petite histoire et un petit coup de cocorico. Elle est partie avec un astronaute français, un de mes collègues, Léopold Layard, qui est allé l'installer sur la station et surtout l'a activé, c'est-à-dire la mise en route, a vérifié que tous les circuits électriques, hydrauliques et autres donc fonctionnaient bien. Et il a commencé la première série d'expériences donc pendant son séjour.
Il faut quand même dire que dans l'historique de ce projet Columbus, il y avait auparavant un projet de station autonome Columbus.
Oui, alors ces projets de station en fait remontent à très très longtemps. Ce sont les soviétiques en fait qui les premiers ont développé ce concept dans les années 70, puis dans les années 80 avec la fameuse station Mir dont tout le monde a entendu parler. Donc une station qui est restée en orbite 17 ans, je crois, et qui maintenant est remplacée par une autre station, la station internationale, qui était initialement un projet purement américain, en fait un héritage de la guerre froide. Les soviétiques de l'époque, dans les années 80, avaient Mir, et le président Reagan a décidé donc de faire mieux côté américain en lançant le projet Freedom, qui était le premier nom de la station, qui a beaucoup évolué dans le temps. Et après la chute du mur de Berlin, les Russes ont été donc invités à bord et ont, plutôt que de reconstruire une station autonome côté russe, en fait ont associé leurs modules à ceux des Américains. Et Columbus, donc la partie européenne, était prévue déjà dans le projet initial, mais sous une forme un peu différente. Effectivement, il devait y avoir une partie qui était attachée à la structure principale, mais une partie aussi qui était indépendante et qui était visitée de temps en temps par des astronautes ou des scientifiques. Et puis, bien tout ça, en fait, a évolué pour arriver à la configuration actuelle avec un seul module européen attaché en permanence à la station.
Donc, dedans, on va pouvoir y faire des expériences, bien sûr. Alors, petite caractéristique, ça fait quand même quelques 10 tonnes, plus de 10 tonnes même, je pense, à vide.
Oui.
21 tonnes en charge. Comme vous avez dit, c'est un gros cylindre. Un gros, on pourrait comparer ça à un genre de camion cylindrique. Un camion, oui, cylindrique, voilà.
Oui, c'est ça, oui.
Oui. Trois personnes, hein, on peut y héberger dedans.
Alors, en fait, bon, c'est plus exactement comme ça que ça fonctionne. Comme le laboratoire Columbus est attaché à la station, donc les astronautes peuvent passer d'un module à l'autre et chaque module a en fait des caractéristiques propres. Certains modules sont plus des modules de vie où on peut manger, dormir, etc. D'autres plutôt de contrôle. Et Columbus est dédié à la science. Alors, on peut rentrer à plus de trois dans Columbus. Columbus, c'est l'équivalent, en fait, du laboratoire Space Lab que les Européens avaient développé dans les années 70, qui a volé à bord de la station, à bord de la navette américaine. Et c'est à bord de ce type de laboratoire que moi j'ai volé dans la station. Dans la station, nous étions 7.
Ah oui.
Donc on peut être plus nombreux à bord, bien sûr, on se gêne un peu. Disons Columbus, à l'intérieur, c'est en gros le volume d'un gros camping-car, on va dire. Mais c'est plein de matériel. Quand ce matériel est activé, on sort des expériences, etc. Certaines flottent autour de vous. Donc il faut quand même avoir pas mal d'organisation pour pouvoir travailler dans ces conditions-là. Et bien sûr, on peut exploiter la troisième dimension, ce qu'on ne fait pas, bien sûr, dans un laboratoire au sol, c'est-à-dire qu'on peut passer les uns au-dessus des autres. Moi, je sais que m'occupant plus d'expériences de physique et d'autres collègues plus d'expériences de sciences de la vie, eux occupaient la partie basse du module, c'est-à-dire le sol, et moi, je m'étais installé au plafond. Donc, je faisais toutes mes expériences la tête en bas, mais bon, pour qui est dans l'espace, ça n'a pas d'importance. Et donc, on utilisait de façon la plus rationnelle possible le reste du volume disponible.
Hommage à Jean-Jacques Favier, spationaute français décédé le 19 mars 2023 à l'âge de 73 ans. Et nous lui rendons hommage en écoutant une émission qui a été diffusée le 16 avril 2008 où il m'avait fait l'honneur de participer pour parler du laboratoire Columbus et du véhicule ATV en tant que directeur adjoint des techniques spatiales. Quelques notes de musique Et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission À toi les étoiles sur IDFM Radio. À tout de suite. IDFM Radio, et comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, 18h, 19h, on prend de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace grâce à cette émission Entre Chien et Loup, rubrique À toi les étoiles. Et aujourd'hui, nous rendons hommage au spationaute Jean-Jacques Favier qui s'est éteint le 19 mars 2023 à l'âge de 73 ans. Pour cet hommage, nous écoutons l'émission du 16 avril 2008 où Jean-Jacques Favier m'avait fait l'honneur de participer pour parler du laboratoire Columbus et du véhicule ATV en tant que directeur adjoint des techniques spatiales. Et là, je lui demandais à quoi sert le laboratoire Columbus.
Ce laboratoire européen est avant tout un laboratoire de recherche. Ce n'est pas une usine de production de matériaux, de médicaments, etc. Un peu comme l'avaient vanté les Américains au début du programme, peut-être pour convaincre le Congrès. Donc il ne s'agit pas de fabriquer des choses que l'on va ramener sur Terre pour les vendre. Par contre, dans l'espace, étant dans ces conditions d'apesanteur absolument unique, qu'on ne peut pas reproduire au sol pendant des périodes longues, hein, puisque l'apesanteur, c'est la chute libre permanente. Et la chute libre au sol, c'est une cage d'ascenseur qui tombe tout d'un coup. Ça dure pas très longtemps, en général, ça se termine mal. Donc au sol, on peut pas faire ce type d'expérience. Et pour certaines sciences, en sciences physiques, en mécanique des fluides, par exemple, eh bien, il est très important de pouvoir s'affranchir du paramètre gravité, qui est tout le temps présent dans toutes nos expériences de laboratoire, pour pouvoir découvrir des choses beaucoup plus fines et cachées par les effets du paramètre gravité. Et ça, donc, c'est vrai en physique, c'est vrai aussi en sciences de la vie, en biologie, c'est vrai en physiologie. Il faut savoir que l'organisme humain ou n'importe quel organisme animal a ses fonctions basiques complètement perturbées par la gravité. L'homme est né sur Terre, l'homme est né et en présence de gravité, donc ses fonctions physiologiques se sont habituées à la présence de gravité. Parfois ça aide, parfois c'est gênant. Par exemple, le système cardiovasculaire, le sang, on le sait bien, a tendance à descendre dans les jambes, hein, quand on reste debout longtemps, et donc il faut que le cœur pompe en retour pour pouvoir alimenter le cerveau. Dans l'espace, il n'y a plus cette différence de pression qui fait que quand le cœur continue à battre, normalement, eh bien le cerveau est trop alimenté par rapport à l'état normal. Donc il y a une évolution du système cardiovasculaire, il y a une évolution de la fonction cardiaque qui en quelques heures, en fait c'est très très rapide, vous permet de vous adapter à ce nouvel environnement. Et ça c'est vrai aussi pour toutes les grandes fonctions physiologiques, on parlait du cardiovasculaire, neurosensoriel, vous savez l'orientation, on s'oriente grâce à des capteurs qui sont dans l'oreille interne, qui fonctionnent par gravité. Donc en absence de gravité, ils ne fonctionnent plus, et c'est ce qui est à l'origine du mal de l'espace, ou plus généralement des mal des transports. Il y a les astronautes perdent du calcium dans l'espace, c'est en fait l'ostéoporose. Dans l'espace, on peut caractériser beaucoup plus finement un certain nombre de phénomènes. On peut trouver des contre-mesures, par exemple pour l'ostéoporose, qui est appliquée pour les astronautes, et qui aussi servent la santé publique au sol, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui bénéficient des traitements qui étaient réservés aux astronautes au début du programme, et qui sont des retours directs des expériences et des recherches faites en apesanteur. Columbus, on a parlé beaucoup de l'intérieur, du laboratoire intérieur, on n'a pas parlé aussi des possibilités qui existent à l'extérieur. À l'extérieur de Columbus, vous avez deux grandes plateformes, donc qui sont dans le vide spatial, sur lesquelles on peut mettre en place des expériences qui regardent, je dirais, vers l'extérieur, donc soit vers la Terre d'ailleurs, pour faire de l'observation, etc., ou de l'analyse d'atmosphère, soit vers le Soleil ou vers les étoiles. Et donc Solar est une de ces expériences qui est située sur une des plateformes de Columbus et qui, de mémoire, s'intéresse aux éruptions solaires et au rythme en fait de l'évolution du cycle solaire.
Vous écoutez IDFM Radio, c'est l'émission Entre Chien et Loup, rubrique À toi les étoiles. Nous rendons hommage aujourd'hui à Jean-Jacques Favier, spationaute français décédé le 19 mars 2023 à l'âge de 73 ans. Et pour lui rendre hommage, nous écoutons l'émission À toi les étoiles qui a été diffusée le 16 avril 2008 où il était mon invité. Et nous avons parlé du laboratoire Columbus et du véhicule ATV. Justement, nous en avons fini avec le laboratoire Columbus. Nous allons maintenant évoquer le véhicule ATV. J'attire votre attention sur le fait que ce véhicule n'est aujourd'hui plus exploité. En effet, son dernier vol a eu lieu en 2014. Nous allons parler aussi au présent des navettes américaines qui, comme vous le savez, ne sont aujourd'hui plus exploitées. J'ai posé la question à Jean-Jacques Favier, qu'est-ce que le véhicule ATV ?
Alors ATV, c'est un sigle barbare comme les aiment bien les gens des agences. Ça veut dire Automated Transfer Vehicle, c'est-à-dire c'est un véhicule de transfert automatique. C'est un cargo qui dessert la station spatiale. Alors, pourquoi faut-il des cargos pour desservir la station ? D'abord, vous avez à bord des astronautes qui restent longtemps, voire très longtemps. En ce moment, les missions sont de l'ordre de 3 à 6 mois, hein, c'est en décembre. Donc, il faut bien que ces astronautes se nourrissent, qu'on leur monte des vêtements, etc. La nourriture, de l'eau surtout, c'est ça qui est le plus lourd finalement. Et il faut leur monter des expériences scientifiques, puisqu'ils sont là pour ça, des pièces de rechange pour la station, etc., etc. Donc il y a besoin d'un trafic de cargo permanent entre la Terre et la station.
Voilà, parce que
aujourd'hui, pardon.
Pardon, c'est parce que jusqu'à présent, ça se faisait uniquement lorsqu'il y avait un équipage qui venait.
Alors, il y avait jusqu'à présent, il y a deux options, soit lorsque la navette arrive. Mais en fait, elle ne va vers la station en ce moment que 4 à 5 fois par an. Donc elle peut effectivement emporter avec elle ses vivres et ses nouvelles expériences. Parallèlement à cela, côté russe, les Russes disposent en fait d'un cargo automatique aussi, une petite capsule, beaucoup plus petite que la TV, qui permet aussi tous les 3 mois de monter du ravitaillement. J'ai parlé de ravitaillement d'eau pour les astronautes, c'est ça qui est le plus lourd, mais il faut aussi mentionner des carburants, parce que La station étant une structure tellement lourde et géante, bien qu'elle soit dans le vide spatial, elle a tendance à descendre et retomber vers la Terre. Donc régulièrement, il faut la rebooster d'une cinquantaine de kilomètres. Et ça, c'est fait soit avec les moteurs de la station, mais bien sûr, il faut leur apporter des ergols, soit avec des moteurs de véhicules comme la TV. Donc la TV est à la fois un cargo, mais c'est aussi un remorqueur. La TV a quatre moteurs qui permettent de remonter la station de 50 km d'altitude à chaque fois.
Qu'est-ce que des ergols ?
Les ergols, en fait, c'est le carburant des moteurs.
Hein. Oui, voilà.
Voilà. Donc il y a plusieurs.
C'est des gros bidons, en fait. Hein.
Alors il y a c'est des réservoirs en fait, hein, ouais. Des réservoirs qui contiennent ces produits qui sont assez toxiques d'ailleurs, donc il vaut mieux que ce soit bien isolé de la partie pressurisée, c'est-à-dire habitable par les astronautes.
Ravitaillement automatique de la Station Spatiale Internationale grâce à cet ATV, il a été lancé très récemment.
Oui, il a été lancé le 7 mars depuis la Guyane, depuis Kourou. Alors ça, c'est une grande première aussi. Jusqu'à présent, les deux spaceports ports spatiaux qui desservaient la station étaient Cap Canaveral en Floride, chez les Américains, ou Baïkonour chez les Russes. Enfin, au Kazakhstan en l'occurrence, mais donc pour la fusée Soyouz. Et donc depuis le mois dernier, l'Europe et la France, à travers la base guyanaise, est aussi un des ports qui permettent de se rendre vers la station spatiale. Et c'est avec une fusée Ariane 5, donc une fusée européenne, que l'on a mis l'ATV en orbite et que l'ATV est allé rejoindre la station. Bon, la date initialement prévue, c'était beaucoup plus tôt dans le calendrier, mais vous savez comment c'est que prévoir une date de lancement 10 ans à l'avance, c'est quasiment irréaliste, surtout quand il s'agit en fait d'un nouveau véhicule et d'un nouveau lanceur aussi quelque part, parce que Ariane 5 a été modifié pour pouvoir lancer ce genre de véhicule, qui est là lui aussi, il y a un gros bidon de 20 tonnes, et c'est la charge la plus lourde qu'une fusée Ariane n'ait mis en orbite depuis le début du programme. Donc il a fallu la renforcer, etc.
Et tout s'est bien passé, donc ce qui montre la capacité du lanceur et sa perfection en fait.
Absolument, donc ça s'est passé de façon tout à fait nominale, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire que c'est parti à la seconde près. En plus, il faut que ça parte dans la seconde, parce que pour ce genre de mission, contrairement au lancement de satellites de télécommunications, par exemple, ce que fait Ariane en général, eh bien, on peut se permettre de partir au meilleur moment, attendre que la météo soit bonne, etc. Là, il s'agissait en fait d'un lancement pour un rendez-vous. Donc, il fallait tirer exactement au moment où la station passait au-dessus de la Guyane, ou enfin du moins était dans une configuration qui permettait le rendez-vous. Et là, il faut partir dans la seconde. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ça, c'était très impressionnant. Ce qui était aussi, c'est que contrairement donc à l'envoi de satellites dans l'espace de télécom qui se font en une fois un seul, c'est-à-dire on lance le satellite le plus haut possible pour qu'il aille après sur son orbite de transfert et puis après vers l'orbite finale. Là, il a fallu faire plusieurs manœuvres et réallumer en vol le troisième étage. Ce qu'on n'avait jamais fait de façon nominale dans une mission. On avait fait deux essais auparavant, mais on ne l'avait jamais testé en vraie grandeur. Et ça, ça ne dit rien peut-être à nos auditeurs, mais c'est un exercice qui est très complexe et qui suppose que la technologie réellement soit maîtrisée. Et ça s'est très très bien passé.
Hommage à Jean-Jacques Favier aujourd'hui dans cette émission Entre Chiens et Loups, rubrique À toi les étoiles sur IDFM Radio. Jean-Jacques Favier, spationaute français, décédé le 19 mars 2023 à l'âge de 73 ans. En guise d'hommage, nous écoutons une émission À toi les étoiles qui a eu lieu le 16 avril 2008 où il m'a fait l'honneur de participer à cette émission en tant que directeur adjoint des techniques spatiales. On va s'interrompre de nouveau pour une pause musicale et puis on se retrouve pour la troisième partie de cette émission avec encore des morceaux choisis de cette émission et puis nous retrouverons ensuite le parrain d'À toi les étoiles pour terminer l'émission en parlant d'actualité spatiale. À tout de suite.
Je dévore mon steak parfumé, j'engloutis mon soda colorant. Je suis un con, je suis teubé, mais je suis content, content, content. Me voilà déjà en surpoids, mais je n'ai que 13 ou 14 ans. C'était pas cher la bouffe, tu vois, mais c'est bien plus cher maintenant. Et les enfants,
indignez-vous,
pas toujours se taire,
indignez-vous,
y'a de quoi faire,
indignez-vous.
Je prends mon médicament. J'ai mal, mais j'ai confiance. Je me trouve à mourir gentiment. Alors là, c'est vraiment pas de chance. Je veux marcher dans la nature pour oublier tout ça. Mais la nature n'a plus de figure. Vous n'allez pas laisser faire. Va toujours se taire.
Indignez-vous.
Y'a de quoi faire.
Indignez-vous.
Y'a pas que des étoiles dans le ciel, comme le dit Stéphane Hessel. Alors quel sera mon futur? Alors quels seront mes espoirs? J'aimerais rire, je te le jure, mais il est déjà super tard. Et j'ai pas fait mes devoirs.
Indignez-vous.
Pas toujours se taire.
Indignez-vous.
Y'a de quoi faire.
Indignez-vous.
Y'a pas que des étoiles dans le ciel, comme le dit Stéphane Hessel. Toujours se taire.
Indignez-vous.
Y'a de quoi faire.
Indignez-vous.
Y'a pas que des étoiles dans le ciel, comme le dit Stéphane Hessel.
Vous êtes sur IDFM Radio, la radio du bien-être. C'est l'émission Entre Chien et Loup, rubrique À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Nous rendons hommage aujourd'hui à Jean-Jacques Favier, spationaute français, décédé le 19 mars dernier à l'âge de 73 ans. Et nous écoutons des morceaux choisis de l'émission À toi les étoiles du 16 avril 2008, où il était venu parler du laboratoire Columbus et du véhicule ATV. Nous parlons justement de ce fameux véhicule, et je vais lui poser la question. Il paraît que ce véhicule avait été nommé le Jules Verne. On écoute sa réponse, et je tiens à vous rappeler que cette émission date d'il y a 15 ans, et les véhicules ATV ne sont aujourd'hui plus exploités. Il en est de même pour les navettes américaines.
Oui, c'est vrai. Donc, moi, je préfère parler de Jules Verne, d'ailleurs, que d'ATV, parce qu'ATV, on ne sait pas très bien ce que c'est pas très joli. On a baptisé, et je pense qu'on va le faire pour les suivants, on a baptisé le premier ATV, le premier véhicule, Jules Verne. Oui. Bien sûr, je dirais en mémoire de notre auteur de science-fiction favori. Pour la petite histoire, il faut savoir que cet ATV, ce Jules Verne-là, transportait, avait à son bord un manuscrit original de Jules Verne, qui est allé dans l'espace, a été rejoindre l'équipage de la station et redescendra au sol après. Donc ce vrai manuscrit de Jules Verne, je crois que c'est le manuscrit La Terre à la Lune d'ailleurs, a réellement été dans l'espace et elle sera récupérée après.
Monsieur Jules Verne va se retourner dans sa tombe.
Oui.
Le Jules Verne, justement, n'est pas récupérable.
Non, c'est vrai. Le principe des cargos, c'est que ce sont des véhicules qui ont pour mission d'aller dans l'espace pour apporter du matériel. Par contre, ils sont éliminés au retour, je dirais. Leur mission, une fois remplie, ils servent finalement de poubelle spatiale, c'est-à-dire que tout ce qui est dans la station qui n'a plus de raison d'être, tous ces déchets-là sont mis dans le cargo, et le cargo, après, est déorbité. Il va redescendre et il a été conçu de façon à entièrement brûler dans l'atmosphère. Donc au moment de la rentrée, bon, vous savez que dans l'espace, les véhicules qui sont en orbite autour de la Terre circulent à 28 000 km/h. Donc vous voyez la vitesse, 25 fois la vitesse du son, Mach 25. Donc quand ça rentre dans l'atmosphère, s'il n'y a pas de protection thermique, comme sur la navette spatiale américaine par exemple, qui permet de passer ce barrage, eh bien tous les autres satellites ou cargos, etc., brûlent entièrement. Et la trajectoire est calculée pour que cette rentrée se fasse au-dessus du Pacifique Sud. C'est-à-dire que si par hasard il y avait un petit morceau non complètement consumé, ben il tomberait à la mer.
Oui, je crois d'ailleurs que la marine nationale, la marine mondiale, mais on pourrait dire, fait en sorte qu'il n'y ait pas de navire qui croise à ce moment-là.
Tout à fait, oui. C'est une zone qu'on appelle le cimetière des satellites.
Une question que je voulais vous poser par rapport à Jules Verne, justement, n'aurait-il pas été plus économique de créer un véhicule récupérable plutôt que de construire plusieurs fois l'identique ?
Alors, bon, ça c'est une bonne question, c'est un vrai débat. Pour faire simple, c'est vrai que d'une part, c'est quand même dommage de perdre toute cette technologie en fin de mission. Donc la mission de la TV, c'est en gros 6 mois dans l'espace, et après tout est perdu. Le débat, c'est celui de savoir qu'est-ce qui est le plus rentable de faire aujourd'hui, des véhicules qui soient récupérables ou des véhicules qui soient consommables. C'est vrai pour les fusées aussi. Ariane 5, finalement, lance son satellite et tous les étages sont perdus, on les récupère jamais. Donc pour le lancement suivant, il faut reconstruire une fusée. Le seul engin qui soit récupérable ou partiellement récupérable, c'est la navette américaine. Sachant que la partie centrale, vous savez certainement en tête l'image de la navette, est accolée à un gros réservoir central avec deux fusées à poudre, deux boosters de part et d'autre. Les deux boosters sont récupérés en mer. Le réservoir central, lui, ne rentrera pas, donc il brûle dans l'atmosphère. Par contre, l'avion lui-même revient se poser. Mais les technologies à mettre en œuvre pour maîtriser ce type de ce type d'engins sont très très complexes, et le bilan montre que aujourd'hui c'est plus rentable, ça coûte moins cher de développer chaque fois une fusée, un ATV, un cargo qu'on perdra, plutôt que de développer un engin qui soit récupérable et qu'il faille remettre quand même à niveau entre chaque vol, ce qui est le cas de la navette. La navette coûte très cher. On a calculé, nous, au CNES, que pour rentabiliser une nouvelle filière de lanceurs qui serait récupérable ou partiellement récupérable, au moins le premier étage, il faudrait avoir 30 à 40 vols par an. Et aujourd'hui, Ariane fait 7 à 8 vols par an. Donc vous voyez, on est loin du seuil critique. Et tant qu'on n'aura pas plus de vols, eh bien on restera sur la technologie des véhicules qui sont non récupérés.
La station se déplace à environ 28 000 km par heure, c'est ça ?
Oui, absolument, oui.
Faire un amarrage quand même à cette vitesse, c'est quand même incroyable. Hein.
Oui, alors c'est vraiment impressionnant. Donc les ordres de grandeur, la station c'est à peu près 450 tonnes en orbite, hein. C'est au point de vue taille avec les panneaux solaires, c'est l'équivalent d'un stade de football. Vous voyez déjà la taille du truc. L'ensemble se déplace à 28 000 km/h parce que c'est la vitesse, si vous voulez, de satellisation, c'est la vitesse qu'il faut acquérir si on ne veut pas retomber sur Terre. L'ATV lui fait 20 tonnes. Ce qui est pas rien, hein. C'est quand même déjà un bon camion. Et il arrive aussi avec une vitesse de l'ordre de 28 000 km/h. Et donc l'approche finale et le rendez-vous se fait avec des vitesses relatives qui se comptent en quelques centimètres par seconde, c'est-à-dire quelques dizaines, centaines de mètres à l'heure. Hein. Donc on va très vite. Par contre, il faut se synchroniser le mieux possible pour que, lorsque l'on aborde la station, on accroche avec une vitesse relative très très faible. Si vous voulez, une caractéristique de la TV par rapport aux autres cargos, par rapport au Progress en particulier, ou même par rapport à la navette spatiale américaine quand elle accoste la station, c'est eux font ça manuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'automate qui permet de prendre le relais et de maîtriser complètement la phase d'approche. La TV est le seul, donc le véhicule européen, est le seul à pouvoir faire cette dernière manœuvre tout seul. Dernière manœuvre, c'est typiquement les 300 derniers mètres. Il y a un système de visée laser qui permet, et de GPS à bord de la TV qui lui permet de connaître exactement sa position par rapport à la station. Parce que la station, comme je le disais, elle descend un peu aussi, elle tombe. Hein, donc elle n'a pas qu'une vitesse, si vous voulez, tangentielle. Il y a aussi d'autres mouvements à prendre en considération. Et la TV doit réagir derrière pour se retrouver toujours dans son axe et viser la cible. Et avec une précision incroyable, la précision lors de l'accostage de la TV, la TV est arrivée à moins d'un centimètre du centre de la cible. Tout ça est automatique pour la dernière phase, mais pour mettre au point tous les automatismes, tous les logiciels, etc., on a un centre de contrôle qui a travaillé pendant près de 10 ans. Il est à Toulouse, là, dans le centre technique du CNES, du Centre National d'Études Spatiales à Toulouse. On a donc un centre de contrôle où une cinquantaine d'ingénieurs suivent en permanence l'évolution de la TV sur ses différentes orbites, avant l'approche, etc., et sont en communication à la fois avec le centre de contrôle de Houston, qui maîtrise une partie de la station, et avec le centre de la Cité des Étoiles à Moscou, qui aussi est dans la boucle pour justement maîtriser ce positionnement relatif. Donc c'est hyper complexe comme système, et ça marche. Et ça a marché du premier coup, donc on s'en félicite. Il y a normalement 4 ou 5 autres ATV qui sont prévus dans les années qui viennent après celui-ci.
Donc à suivre. Et il y avait quand même possibilité, en cas d'urgence, de pouvoir faire marche arrière, de pouvoir interrompre la procédure. Oui.
Ce qui était prévu, comme c'était la première fois qu'on utilisait ce véhicule et qu'il était très très différent des autres, les Américains, surtout les Russes aussi, nous ont demandé de faire nos preuves, c'est-à-dire de faire des essais à vide, avant un accostage définitif, pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de collision au moment de cet accostage. Donc les Américains nous ont demandé de faire nos preuves, si vous voulez, avant de nous autoriser à venir accoster, ce que l'on a fait parfaitement. On est arrivé une première fois à moins de 10 mètres de la station, et puis donc notre centre de contrôle au sol a repris la main pour faire reculer la TV et lui faire réaliser une manœuvre d'évitement, passer en dessous, comme si il y avait eu un problème et qu'il fallait absolument ne pas toucher la station. Comme on a réussi tout ça, bien les Américains et les Russes nous ont donné l'autorisation de l'accostage final qui s'est passé, comme je le disais, à perfection. J'indiquais que c'était vraiment un véhicule assez extraordinaire, qui a beaucoup d'intelligence à bord, et donc moi ce que je souhaiterais, c'est qu'on réfléchisse, parce que je m'occupe de prospective maintenant, hein, comme je vous l'ai dit, qu'on réfléchisse en fait à l'utilisation de la TV et finalement de toutes les technologies que possède l'Europe pour essayer de voir, anticiper la phase suivante des programmes d'exploration. Alors, est-ce que ce sera vers la Lune, vers Mars, etc. Mais toutes ces technologies qu'on possède en Europe, on peut les valoriser dans le cadre d'un grand programme international. Il est sûr que si on va sur la Lune, les Européens n'iront pas tout seuls comme les Américains l'avaient fait à l'époque de la guerre froide. Maintenant, ça, c'est du passé, heureusement. Et l'exploration, en fait, se présente dans un cadre beaucoup plus ouvert, planétaire. Ils contribuent chacun à leur manière, les Américains, les Canadiens, les Russes, les Européens, les Indiens, les Chinois aussi. Tout ce potentiel, à mon avis, doit être coordonné, harmonisé pour être le plus efficace possible et aller ensemble explorer le reste de l'univers. Et l'Europe a sa place à jouer là-dedans.
C'était Jean-Jacques Favier, spationaute français, décédé le 19 mars dernier à l'âge de 73 ans, et nous lui avons rendu hommage dans cette émission À toi les étoiles avec la diffusion de morceaux choisis de l'émission À toi les étoiles du 16 avril 2008, il y a de cela 15 ans, où il était venu parler du laboratoire Columbus et du véhicule ATV, et vous avez pu entendre dans les propos qu'il a tenus à l'instant qu'il rêvait d'une collaboration internationale pour des futures missions lunaires notamment, et bien c'est le cas aujourd'hui avec Artemis, comme quoi c'était un précurseur. On va terminer cet hommage à Jean-Jacques Favier, toujours avec le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique qui était avec nous depuis le début de cette émission. Vous avez tout entendu, Jean-François Pellerin ?
Oui.
Vous m'avez dit, Rotten, que Jean-Jacques Favier accordait de rares interviews, c'est ça ?
Oui, il y a de rares interviews, et d'ailleurs, c'est sûr, pour cette émission que vous avez rediffusée, il est clair qu'il y avait très peu d'émissions carrément autorisées par Jean-Jacques Favier d'une heure en radio. Hein.
On peut dire que je suis chanceux. Restez avec nous, dans un instant, on se retrouve avec le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin, pour la dernière partie de cette émission À toi les étoiles, puisqu'il nous reste quelques minutes. Nous allons parler de l'actualité spatiale. À tout de suite.
À tout à l'heure.
Ma génération, elle a tout oublié des révisions du bac. Elle veut un dealer, pas trop loin de la fac. Elle a grandi, elle s'en branle du regard des gens. Elle veut un coup d'un soir, mais qui dure deux ans. Elle faisait des tours géantes en capla et le tour du monde sur un carta. Elle grattait une piscine pour passer le mois d'août. Elle comptait des centimes pour s'acheter une couille de mammouth. Des fois plus de cadeaux, les parents séparés. Elle s'est inscrite à la salle, mais n'y est jamais allée. Le lait, toujours après les chocs à pic. Elle assume pas, mais elle a dansé la tectonique. Défoncée, elle mate les zinzins de l'espace. Elle écrivait des trucs au blanco sur l'ISPAC. High School Musical, Anna Montana, karaoké du lac du Connemara. C'est des ré, des rats, des ré. Personne comprenait, mais tout le monde chantait. Dans son salon, elle a des panneaux de chantier. Elle les collectionne quand elle est bourrée. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans.
C'était mieux avant, remonter le temps. Premier cheveux blanc, j'ai pris un coup de vieux. C'était mieux avant, remonter le temps. Premier cheveu blanc, j'ai pris un coup de vieux. J'ai connu Zelda, j'ai vu jouer Regine et JJ Okocha. Génération Spleen, Booster ou 103. Les années défilent, qui se souviendra?
Vous êtes sur IDFM Radio, c'est l'émission Entre Chiens et Loups, rubrique À toi les étoiles sur la radio du bien-être. Et nous parlons d'astronomie et d'astronautique tous les troisièmes mardis de chaque mois, 18h, 19h. Il nous reste quelques minutes avant de conclure cette émission et avec le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin, nous allons parler d'actualité spatiale, Jean-François Pellerin.
Alors l'actualité spatiale, on a eu beaucoup d'événements sur le mois dernier, hein, sur le mois d'avril. Donc première chose, grande cérémonie à la NASA pour présenter le tout premier équipage qui va l'année prochaine, au mois de décembre, tourner autour de la Lune. Donc ça sera un peu comme une mission Apollo 8. Donc les missions Apollo 8, c'était le premier vol habité autour de la Lune en décembre 68. Et là on va refaire la même chose, mais c'est dans le cadre du programme Artemis. Donc il y a quatre astronautes qui ont un bon cursus, hein. Christina Koch, qui est la femme vétéran des vols dans l'espace, qui a fait un vol d'un an pratiquement, 329 jours dans l'espace, qui a 44 ans. Ensuite, il y a Gregory Wiseman, Victor Glover, qui est l'astronaute personne de couleur, et Jeremy Hansen, qui est un Canadien, puisqu'il était prévu donc pour cette mission de mettre trois Américains plus un Canadien, et ils vont faire un vol d'une dizaine de jours et démontré, surtout que tous les systèmes de bord fonctionnent à bord d'Orion. On l'a fait l'année dernière, si vous vous souvenez, en vol entièrement automatique, un vol de 25 jours, on a tout testé, il y avait des mannequins à bord, et on a appris plus d'informations que prévu, et ça a été plus concluant que ce qu'on attendait. Donc c'est pour tout vous dire, ça a été un beau succès pour la première mission Artemis sans équipage.
J'ai envie de dire que tous les voyants sont au vert, Jean-François Perrin.
Voilà, c'est le cas de le dire. Et donc là, ça sera un événement parce que, déjà, première femme autour de la Lune. Deuxième événement, première femme de... première personne de couleur envoyée autour de la Lune. Troisième chose, première personne non américaine autour de la Lune, un Canadien. Donc vous voyez, et c'est un équipage de 4 personnes, et ils vont aller très très loin, ils battront certainement des records d'Apollo.
On suivra ça de près, bien sûr, Jean-François Pellerin. D'autres choses aussi dans l'actualité spatiale, on a eu Starship.
Oui, le Starship, on l'attendait depuis déjà un certain temps. Alors Starship, pour résumer, et puis pour donner un peu des images, parce que c'est quand même un projet pharaonique, hein, c'est tout, faut voir tout en grand. Alors Starship Super Heavy, c'est un engin de 122 mètres de hauteur, c'est l'équivalent d'une tour de 40 étages, 5000 tonnes pour la masse de l'ensemble des deux véhicules, hein, les deux étages, 5000 tonnes c'est la moitié de la masse de la tour Eiffel, il y a une poussée au décollage de 7500 tonnes, c'est pratiquement le poids de toute la structure métallique de la tour Eiffel. Donc c'est vraiment gigantesque, on est vraiment dans les superlatifs. Et là, le but de ce premier vol, c'était de faire un tour de terre en perdant les étages, hein, pour retomber en mer. Décollage à Boca Chica au Texas, donc un tour de terre vers l'est, et ensuite ça se terminait du côté d'Hawaï en plein Pacifique. Et le but du jeu, c'était de démontrer qu'on pouvait monter le plus haut possible et pouvoir séparer l'étage supérieur, à savoir le Starship. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé en réalité dans ce vol? Ça s'est terminé à une altitude de 39 km et le vol a duré 4 minutes et 3 secondes. Il s'est avéré que le décollage a été très rude pour le pas de tir, puisque vous avez vu certainement des images... Il y a un genre de cratère qui a été creusé.
Oui.
Et c'est avéré que le lanceur, c'est ce que va dire Elon Musk en conférence de presse 8 jours plus tard, le lanceur reste trop longtemps sur le pas de tir avant de se soulever. Il reste, vous voyez les images, il reste 5 secondes. Et il faut qu'ils arrivent à descendre à 2 secondes et demie, c'est-à-dire 2 fois moins de temps sur le pas de tir. Avec 33 moteurs, ils ont décollé, il y en a 3 qui ont été stoppés parce qu'ils n'étaient pas viables, donc ils ont décollé sur 30 moteurs. Et après 1 minute et demie de vol, il y a eu une instabilité au niveau du lanceur. Ça a commencé à se déstabiliser. Ils ont perdu d'autres moteurs. On avait 6 moteurs hors service. Et ensuite, ils n'avaient pas assez de vitesse. Ils n'étaient pas bons dans la trajectoire pour déclencher la séparation et l'allumage de l'étage supérieur. Ça s'est mis un peu en looping. Ça s'est mis à tourner. Mais il s'est avéré, ils ont appris quand même beaucoup de choses, il s'est avéré que c'était extraordinairement solide au niveau structurel, ce qu'a dit Elon Musk. Et vous savez, la fameuse phase cruciale, le max Q, qui est le maximum des charges aérodynamiques sur le lanceur, tout ça, ça s'est bien passé, le lanceur a supporté tout ça. Et il s'est pas désintégré, il a fallu non pas... déclencher la destruction quand ça a commencé à redescendre à partir des équipements qui permettent la destruction sur le lanceur, mais il a fallu attendre 40 secondes qu'une télécommande de destruction à distance déclenche la destruction et détruise les réservoirs et détruise tout le lanceur. Donc Elon Musk a dit que pour lui il était content, hein. Il y a eu des félicitations de la NASA, des félicitations aux équipes SpaceX. Pour eux, ils ont plus de 4 minutes d'informations, de données. Alors c'est sûr, on aurait été content s'il y avait eu la séparation et si on avait vu vol de l'état supérieur, mais apparemment c'est partie remise et il semblerait qu'il soit partant pour refaire un essai assez rapidement, puisque il y a quelques jours, il a fait un test de pressurisation sur un nouveau Starship. Vous voyez, on a déjà prévu l'engin suivant du prochain vol. Alors, il y a des aspects non négligeables, c'est le pas de tir, ils sont en train, depuis 15 jours, de faire des travaux. Alors, on pourrait parler peut-être d'une négligence. Vous savez, sur tous les pas de tir, c'est comme Ariane 5, Ariane 6, des fusées géantes, il y a ce qu'on appelle un déflecteur de gaz pour faire évacuer tous les gaz et puis tout ce qui ressort de ces moteurs-là. Et il y a un déluge d'eau pour absorber les vibrations et tout ce qui est acoustique au niveau de la propulsion juste au moment où tout s'allume et au moment où ça décolle. Mais il s'avère que ce qui manquait, ils étaient en cours de travaux, c'est une plaque en acier qui doit normalement être sous le pas de tir, arrosée d'eau pour protéger à la fois les vibrations et puis pour l'aspect chaleur aussi au niveau thermique. Donc ça, c'était pas prêt. Donc conclusion, il y a eu des dégâts quand même assez impressionnants, puisque on a retrouvé des morceaux de terre, de roches dans un rayon de 10 kilomètres. Hein. C'est quand même au ralenti, quand vous voyez des images, c'est impressionnant. Hein. C'est quelque chose, je sais pas en kilotonnes combien on pourrait donner au niveau de la puissance, mais c'est bien expliqué. Ils disent que le lanceur est resté 5 secondes trop tard. Et enfin, il est resté 2-3 secondes trop tard au niveau zéro. Oui. Pendant 5 secondes, vous voyez toute la fumée et on sent que le lanceur n'arrive pas à se soulever. Donc ça, c'est le premier point que veut faire Elon Musk, c'est gagner 2-3 secondes pour le décollage.
Jean-François Pellerin, il nous reste très peu de temps pour parler d'une dernière chose, c'est le retour en vol de Virgin Galactic.
Oui, alors Virgin Galactic, il y avait eu des problèmes sur le vol de Branson en juillet 2021, et la fédération au niveau aviation américaine avait tout stoppé, et là il commence, et à la fin du mois de mai, on va revoir un vol, disons, spatial, et tous les mois ensuite il va y avoir des vols. Donc il y aura eu un break de 2 ans, pour des raisons de sécurité, ils veulent vraiment pas prendre de risques, hein, donc c'est très très important de faire très attention. Juste un mot, on peut peut-être citer que le 14 oui. avril, on a eu la sonde géante JUICE pour partir vers Jupiter. Alors on peut dire qu'aux dernières heures, il y a un petit pépin quand même qui dérange les opérateurs. L'antenne principale fonctionne, elle a pu s'ouvrir, mais la deuxième antenne qui sera réservée pour les expériences sur place autour de Jupiter, elle n'arrive pas à se débloquer, elle est à un tiers débloquée.
Ah.
Donc là, il y a des procédures en secouant la sonde pour essayer de débloquer. Ils sont en train déjà d'étudier la possibilité de voir comment ils peuvent opérer autour de Jupiter avec une antenne à un tiers ouverte.
On suivra ça de près, Jean-François Pellerin. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission À toi les étoiles. Et puis, j'ai envie de dire au mois prochain, puisque on se retrouve le 20 juin pour parler d'un anniversaire. C'est les 60 ans du vol de Valentina Tereshkova.
Voilà, on parlera des femmes astronautes et de Valentina, qui est toujours de ce monde, qui a 86 ans.
Merci beaucoup, Jean-François Pellerin.
Et merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Elle est là, elle est dans les starting blocks, c'est Olia pour son émission Happy Hour, elle s'installe, bonjour Olia, je te laisse la place. On se donne donc rendez-vous le 20 juin, soyez au rendez-vous, et sinon, est-ce que j'allais oublier ? Mais bien sûr que non, allez, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Damien qui a eu 35 ans le vendredi 12 mai, joyeux anniversaire Damien. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, la radio du bien-être, et rendez-vous le 20 juin. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.